On va aborder le sujet. Très important de prendre la Bible. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, ne traînons pas parce qu'on a, déjà du retard. Premier livre de Samuel. Au chapitre 2 du premier livre de Samuel, au verset 26, le jeune Samuel continua à grandir, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Mais à quel genre d'hommes et de femmes? C'est pas à tous, hein? Aux hommes, aux hommes qui aiment Dieu, hein? Alors, un homme de Dieu vient auprès d'Élie, lui dit, ainsi parle l'Éternel. Et puis, il va lui rappeler que Dieu s'est révélé à Moïse, etc. C'est un rappel de l'autorité de Dieu. Et dans le verset 29, faites bien attention, regardez le texte, hein, relisez-le dans la journée. Moi, je trouve que c'est assez dommage si on ne le fait pas. Hein. C'est plutôt grave. Au chapitre 2 de Samuel. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? C'est dans le verset 29. Voilà quelque chose qui est indicatif de ce qu'un prophète vient révéler à ce prêtre dont la fonction est d'honorer Dieu. Alors, autant dire pour un rabbin, un pasteur, etc., même pour des parents chrétiens, attention, d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Les enfants sur les piédestals, on a compris? Ça ne plaît pas à Dieu. Pourquoi y a-t-il peu de vocations en Occident? Parce que les enfants, depuis la guerre de 40, les parents ont grandi, les enfants sont servis par les parents. Dans la difficulté, dans d'autres pays, c'est les enfants qui servent les parents. C'est les enfants qui servent. Et on trouve des vocations dans les familles où les enfants ont appris à servir la famille, les parents, tout petit. Autrement, gros zéro. Alors, c'est un verset extrêmement important, parce qu'on parle de l'éducation. Moi, je prends la trajectoire de Samuel pour expliquer des faits qui sont généraux, qui sont fondamentaux pour l'éducation. Cet enfant grandit dans la parole de Dieu, prenons au chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes, c'est-à-dire les prophètes qui ont des contacts avec Dieu, mais ils étaient rares, absolument rares, et surtout remballés souvent, chassés, pas écoutés. Alors on voit ici, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Aujourd'hui, dans nos églises, qui lit sa Bible tous les jours? Ah, alors vous tombez sous ce verdict. Vous tombez sous ce verdict. Vous mangez, vous allez à la toilette, vous regardez la télévision, mais ça, la parole, si vous ne lisez pas tous les jours la parole, vous êtes sous ce verdict. Je vous le dis. Jésus l'a dit, celui qui demeure dans ma parole demeure en moi. Il faut bien que je sois carré, les amis. Parce qu'il faut se réveiller. Il faut se réveiller avant que le Seigneur Jésus arrive. Dans le même chapitre, au verset 19, je parle d'éducation, non seulement pour les enfants, mais pour les parents. Parce que comment éduquer des enfants si on n'est pas éduqué de soi-même, dans le bon chemin? 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Donc il y a une présence, il y a une communion entre Samuel et Dieu. Ok? Et cette communion-là est en train de transformer ce petit enfant pour en faire un prophète, un serviteur de Dieu. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Si Samuel ne laisse tomber aucune de ses paroles, ça veut dire, mais le lendemain, il s'en rappelle encore. Quand il va marcher à pied, 3 mois après, ça trotte encore dans sa tête. Il les médite. Il s'en rappelle. Il vit avec. Faites une analyse de votre esprit, de votre mental. Et regardez avec quoi vous vivez dans votre tête. Regardez ce qui se passe dans votre tête. Regardez les pensées et tout. Analysez ça. Analysez. Soyez objectif et critique. C'est ça le libre arbitre, le libre examen. Et si vous n'avez que très peu de pensées vers Dieu, très peu de paroles de Dieu, c'est que vous laissez tomber à terre et vous marchez dessus. Moi, je vois que le bonheur de la vie, c'est où qu'on soit plié en quatre, en train de travailler, piocher, ou de nettoyer, ramasser quelque chose à terre, de faire la vaisselle, faire à manger, être en voiture, c'est, bien sûr, il y a des tas de choses avancées dans la vie, mais ce n'est pas la vague qui nous submerge, pas du tout. C'est d'être avec le Seigneur et de penser à lui, et de lui parler, et de se rappeler des choses qu'il nous a enseignées, et de rappeler les choses que par son Saint-Esprit, il nous a déjà dit à différents moments de notre vie. C'est être attentif à Dieu, c'est être un auditeur, non pas oublieux. Prenons l'épître de Jacques. Comment voulez-vous qu'un enfant soit élevé convenablement si les parents eux-mêmes laissent tomber la parole de Dieu à terre? L'enfant a tout compris, sans parole lui. Sans parole. Il sait de quoi, de quel bois se chauffent les parents. Et c'est pas ce qu'on dit souvent qui compte, c'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Et pour Dieu aussi. Et pour l'enfant aussi, c'est bizarre. Jacques chapitre 1, verset 25. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, donc c'est la parole de Dieu. La loi de liberté, c'est-à-dire j'ai la possibilité de prendre mes responsabilités, d'examiner ce que je suis, où j'en suis, d'avancer ou de reculer. Ça, c'est une vraie liberté. Une vraie liberté qu'il faut assumer, évidemment, qu'il faut saisir. Celui qui aura plongé et regardé dans la loi parfaite, la loi de liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous avez vu ce verset ? Ben c'est tout à fait Samuel, n'est-ce pas ? Boum ! Faisons gaffe, la parole de Dieu est là pour nous éclairer et pour définir notre façon d'être, notre façon de se comporter en face de Dieu. Mais je ne vois pas Dieu, je ne sais pas où il est. Il est ici, à tout instant, jour et nuit avec toi. Il te regarde. Il a créé les yeux des hommes, des chats, des aigles, et ses yeux sont encore meilleurs. Il s'abîme pas. Il a créé les oreilles des chats, des hiboux, de nous. On entend beaucoup de choses. Eh bien, il a créé l'oreille. Le fabricant de l'oreille entend encore mieux que nous. Et il nous entend. Il nous voit. Il sonde nos reins, connaît nos pensées. C'est ça qu'il faut savoir. S'il était dur, s'il était méchant, il y a longtemps qu'on ne serait déjà plus vivant. Moi, je pense que Dieu est patient avec nous. Dieu est patient. Épître de Pierre. Vous connaissez, mais c'est extrêmement important de faire des rapports entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Deuxième épître de Pierre. Chapitre 3. savez, quand on va enregistrer, et que après, bon, à un moment donné, les prédicateurs, ça ne sera plus moi, hein, d'office. D'office, même si je peux encore le faire, ce sera d'autres. Si c'est enregistré, pensez bien qu'en Chine, en Ukraine, aux États-Unis et autre part, on vous entend. Il faut être responsable de la parole. Pour beaucoup. Plus que 25 ou 30 ici. Alors, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Hein, pensez au psaume 45 que Michael a présenté sur l'établissement de la royauté de Christ sur une nation. Eh bien, regardez, l'accomplissement de la promesse se fera, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à repentance. La repentance, c'est la conversion, c'est le changement voulu, délibéré, et l'acceptation de l'autorité du Saint-Esprit et de la parole. Une repentance sans nouvelle naissance, sans acceptation de l'autorité de la parole, de la vérité biblique, n'est pas un salut, n'est pas une repentance. C'est une comédie religieuse que Dieu n'a pas besoin. L'expérience du Dieu vivant est extrêmement importante, très très importante. Prenons la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 6 et 9. Voilà ce que Paul le dit, hein, parce que vous êtes gardés par la foi, verset 5. Hein, dans la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi. Si vous avez vraiment la foi à Dieu, la puissance de Dieu est sur vous, vous vous gardez dans la foi, hein, au verset 5. C'est automatique. La vraie foi est sous la puissance de Dieu. La vraie foi, sans ajouter, sans retrancher. 2 Corinthiens 13, 8. Nous n'avons de puissance que dans la vérité. Hors de la vérité, nous n'avons point de puissance. 2 Corinthiens 13, 8. Donc c'est clair. Dans Pierre 1, 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi dans la vérité, sans rien ajouter, sans rien retrancher. C'est ça qu'il faut être sérieux. Samuel était sérieux, il ne laissait rien tomber à terre, vous voyez. Et nous, relevons-nous. Il faut absolument qu'on amène d'autres au salut dans la région. Et aussi par le site et d'autres. Si Dieu nous a choisis, il faut répondre. Verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, hein, pour le salut prêt à être révélé dans le dernier temps, psaume 45. C'est là ce qui fait votre joie, pour dire quoi que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et oui, les tuiles ne manquent pas, les épreuves ne manquent pas, les maladies ne manquent pas, les incompréhensions ne manquent pas, évidemment, pas grave. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, ait pour résultat la louange. Donc, quand nous avons une foi profonde, et nous gardons la parole, nous passons par l'épreuve, c'est comme le bloc de pierre qui passe par le haut fourneau, et qui est fondu, et qui donne l'or. L'or, dans les livres de la sagesse, c'est l'adoration de Dieu. L'épreuve nous amène à l'adoration de Dieu. Je n'ai pas eu le temps ce vendredi d'aller au marché à Virton, c'est dommage, mais je vais revoir ce jeune homme d'origine musulmane, hein. Il y en avait trois là sur le marché, et puis un Thaïlandais. Eh bien, il y en a un qui m'avait quand même confié, mes parents étaient très riches, très riches. J'ai 40 ans, je suis malheureux. Je suis incapable de gérer ma vie. J'ai toujours eu tout ce qu'il fallait. Quand mes parents sont morts, je suis 15 ans en retard sur l'autre là-bas, là, mon copain. Sur mon copain Samy. 15 ans. Lui, il a 23 ans, il est plus mûr que moi qui en ai 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là m'a dit, que l'abondance des biens, l'élévation des enfants sur un podium, les fragilise, les rend incompétents pour se battre dans la vie, incapables de trouver leur chemin après, quand les parents ne sont plus là. C'est un jeune homme, un monsieur, né dans l'islam qui m'a dit ça. Il ne l'est plus. À mon avis, il ne pratique pas. Rien qu'à le voir, l'entendre. C'est fort important. Donc les épreuves produisent de l'or, produisent un véritable attachement à Dieu et un or purifié, c'est-à-dire une adoration purifiée. Une louange, une gloire, un honneur. C'est ça qui a eu à Samuel. Rappelez-vous qu'Élie était plus que tolérant, laxiste, que les deux fils prenaient dans les offrandes pour se servir devant tout le monde. Et ça coquinait avec des femmes, là, dans le lieu sacré de la prière. Il y a eu, dans notre église, des membres d'église qui m'ont confié des choses. Hein? Ils disaient, c'est incroyable, quand je suis au culte, que je vois ta fille, ou je vois telle fille de ta fille, ou j'ai des fantasmes, j'ai des désirs, etc. Ou je vois telle femme. C'est la révélation, je regrette, d'une vie fausse, sans le Saint-Esprit, sans la véritable régénération. Et il avait des fonctions dans l'Église, c'est arrivé à trois, quatre reprises. C'est une étape de ma vie, mais aussi de l'Église, que je ne voudrais plus reconnaître. Et je le dis franchement, je ne souhaite plus qu'elle revienne dans l'Église. Il y a des gens qu'on croit à leur place et qui n'y sont pas. Ils n'étaient pas en Christ au moment du culte, ils étaient avec le diable, dans le culte, dans l'Église, et revenaient tout le temps. Ça veut dire que le péché se cache dans les lieux religieux. Il aime bien ça, pour avoir la vie éternelle. Retenez bien ceci, Samuel a trouvé sa grandeur d'âme en gardant la parole de Dieu avec fidélité. Il a trouvé sa grandeur d'âme, pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce qu'il l'écoutait et il ne jetait pas la parole de Dieu à terre. Il ne la négligeait pas. À nous d'empreinte, pour chacun de nous. Chacun de nous. Chacun de nous doit pouvoir comprendre ce que Pierre a dit à son église ici, au chapitre 1, versets 6 à 9. Maintenant, regardons le chapitre 3, verset 12. Donc, quand un enfant, on parlait d'éducation, quand il y a des épreuves dans une famille, et qu'on fait tout pour que les enfants soient gâtés, pourris, et qu'il n'y ait pas d'épreuves, on leur rend mauvais service. Il faut que l'enfant participe aux épreuves de la famille ensemble. Et on se tourne vers Dieu, on adore Dieu ensemble. L'enfant va voir le chemin à travers les épreuves. Et il va voir comment il faut grandir dans la foi. On le coconne, etc. Allez, on lui donnait des jouets, la tablette et tout le reste. On a des tracas, ça sera pour nous tout seul. Combien de fois j'ai entendu dire ça ? L'éducation à la moderne. L'enfant voit tout, il comprend tout. Vous lui cachez, il souffre quand même. Mais n'empêche, il n'aura pas mûri. Il sait, il voit, mais il n'y a pas accès. Mais si vous priez, et vous confiez tout, et que votre enfant prie avec vous, dans les épreuves de la famille, peut-être que Dieu va résoudre le problème de la famille grâce à la prière d'un de ses enfants-là dans la famille. Et pas la pire des adultes. Parce que Dieu entend les enfants beaucoup mieux que les adultes. Regardez comment Jésus a parlé avec les enfants. Est-ce qu'il a dit des enfants? Alors, au chapitre 3 de Pierre, au verset 12, « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, donc ceux qui aiment la sainteté, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Bon dimanche à vous. À bientôt. Alors, vous voyez, fermez la porte ici. qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, donc la sainteté, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. Dans les épreuves, nous on en a eu énormément ici à la maison, avec tous les réfugiés qu'on a eus, avec plein de choses, même dans l'église. Nos enfants y ont participé. Il a fallu qu'ils passent à travers les vagues avec nous. N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. Il faut montrer à l'enfant la foi qu'on vit, pas la foi qu'on dit, la foi qu'on vit. Quand il y a des vagues qui montent et qui redescendent. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là, même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Eh oui, moi, il m'est arrivé souvent, j'avais des ennemis redoutables, même menacés de mort. Des gens qui sont venus me demander pardon, ou c'est moi qui étais vers eux, ils me demandaient pardon. 30 ans après, 40 ans. Puis j'ai eu un fusil sous le nez. J'ai eu un couteau sous la gorge, moi. C'est quand même bizarre. Et plusieurs années après, on se demandait, il demandait pardon, et moi j'ai dit, j'étais déjà pardonné. La foi n'est pas de la théorie. Il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs. Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Eh bien, je pense que le petit Samuel, dans le souk, c'est-à-dire là où tout le monde se réunissait pour prier, il y avait tellement de menteurs, tellement de gens qui n'étaient pas en Dieu, que ce Samuel a tenu bon. Tenu bon. Parce que tous les ans, sa maman, qui priait tous les jours pour lui, le papa en sépare, il est un peu ratamou, mais enfin, il peut avoir changé. Mais, elle l'amenait une robe tous les ans, une nouvelle robe, il grandissait, une robe sacerdotale. Elle confirmait le don tous les ans qu'elle avait fait de son fils à Dieu. Et elle confirmait à son enfant le chemin qui lui était donné. Elle confirmait à son enfant. Est-ce que vous avez déjà l'idée d'un chemin pour votre enfant qui soit bon, qui plaît à Dieu? Est-ce que vous lui signifiez? Est-ce que vous le confirmez régulièrement? Tout ça est bien compliqué, les amis. Je sais bien qu'on n'est pas à la hauteur. Il y a des choses que je ne referai pas, ou je ferai beaucoup mieux. D'autres que je ne ferai pas, et d'autres que je n'ai pas fait, que je devrais faire. Absolument. C'est comme ça. Mais, si vous avez la chance de méditer ces paroles et d'analyser, vous serez bénis. Chapitre 4, verset 12. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, toute la population ne s'intéresse plus à Dieu. Ben oui, avec Élie et tout ça, ils ont perdu leurs alliances, Ophni et Phinéas ont été tués. Ils veulent un roi, là. Un gugus. Hein? Ben, c'est une sacrée fournaise pour ce brave jeune homme qui sert Dieu. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Oui, notre roi, c'est Jésus-Christ, même si aujourd'hui on crache dessus. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voilà, j'ai fait une connexion entre la vie spirituelle chrétienne et la responsabilité des parents, des éducateurs chrétiens, et l'attitude de Samuel dans une ambiance pourrie, évidemment. Il n'a peut-être pas facile, mais il a tenu le coup. Pourquoi pas nos enfants? pourquoi pas nos enfants? Dieu est tout puissant, il faut lui demander. Dieu démontre sa colère, bien sûr, dans le livre de Samuel. Il va briser Ophni et Phinéas. Premier livre de Samuel, chapitre 3. Alors que notre cher Samuel grandit et se fortifie et se construit dans la parole de Dieu, les fils du prêtre, oulala, ils vont à la guerre contre les Philistins et ils perdent la bataille, évidemment. Premier livre de Samuel, chapitre 4. Verset 10, les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. Fantassin. L'arche de Dieu fut prise et deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, moururent. C'est une grosse catastrophe. Hein? C'est un drame, hein, pour ce peuple. Mais ils l'ont préparé, leur drame. N'ont pas respecté Dieu. Pourquoi est-ce que cette arche d'alliance deviendrait un gris-gris, un talisman? Pourquoi que Dieu se contenterait d'un fétichisme alentour de l'arche d'alliance et de sacrifices hypocrites? C'est évidemment l'occasion pour Samuel, de grandir, de réfléchir devant tout ça et de devenir un jour un vrai prophète. Et ce vrai prophète, il va prendre des positions très claires. Premier livre de Samuel, chapitre 9, il va être estimé, reconnu, ou craint. Ou craint. Chapitre 9. Au revoir. Tu as des jours de congé?
Je vais en vacances. Je serai disponible à partir du 17 juin.
Ça va. Ça va. Au revoir, Valérie. Alors, chapitre 9, verset 6, le serviteur, lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc, il a pris une autorité. Et il l'avertit, et ça s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il y a un bonhomme, et le voyant Samuel ne le sait pas encore, ce bonhomme cherche des ânesses perdues. En doute qu'elles étaient en chaleur, il en, elles courent partout, et pratiquement, il ne les retrouve pas. Donc, le meilleur moyen, c'est d'aller trouver l'homme de Dieu, et de lui faire jouer un rôle de gourou. À l'homme de Dieu, lui faire jouer un rôle de gourou. Si je retrouve mes années, c'est très bien. C'est pas pour Dieu qu'on va trouver dans ce cas-là. Regardez le bonhomme que c'est, il va trouver le prophète, non pas pour Dieu, mais pour ses intérêts à lui. Il y a beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui vont vers des gens qu'ils considèrent comme hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, pour leurs propres intérêts. Il y a des chrétiens qui doivent. Les chrétiens doivent être prudents dans les motivations des gens qui tournent alentour d'eux. Les chrétiens doivent être prudents dans les motivations de tous les gens qui s'adressent à eux, qui tournent alentour d'eux. Ce n'est pas toujours très clair et très honnête. C'est souvent caché. Au chapitre 9, verset 9, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. C'était le nom du prophète, hein, Nabi. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Donc c'est par opportunisme que Saül va être connecté à ce prophète. Remarquable qu'était Samuel. C'est accidentel. Il peut arriver que dans c'est les gens qui fréquentent les chrétiens ou des serviteurs de Dieu, il peut arriver que des gens, sans s'en rendre compte, je m'excuse, malgré leurs bêtises, sont envoyés par Dieu. Malgré leurs bêtises, et leur sens de l'opportunité, leur opportunisme, et que ça va être l'occasion de jeter les filets pour attraper des poissons, c'est-à-dire de les amener au Seigneur. Parce que l'humanité est en péché, l'humanité s'est privée de Dieu, elle se contorsionne. Elle se contorsionne, comme quelqu'un qui se contorsionne à terre, elle se contorsionne, c'est-à-dire elle se retourne dans tous les sens pour arriver à se sortir des pétrins, de toutes les mauvaises situations. Et un petit peu, Dieu ne ferait pas de mal par hasard, si on en a besoin. Un petit peu beaucoup, mais quand c'est arrangé, c'est fini. C'est ça que je dis, l'humanité se contorsionne depuis qu'elle a le péché au cœur, dans l'âme, elle se contorsionne. Mais, il arrive que Dieu a des projets et utilise la vanité, l'esprit obscurci des gens, pour les sauver. Au chapitre 9, verset 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, regardez, l'Éternel lui dit, donc au moment où il voit arriver, le pote là, hein, qui n'a rien dans la tête, eh bien, Dieu lui dit, attention, attention, fais gaffe. C'est pas par hasard qu'il vient. Lui, il ne sait pas pourquoi il vient. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant. Il ne se rend même pas compte que c'est un serviteur de Dieu intègre et avec une autorité spirituelle. Il ne s'en rend même pas compte, tellement il est aveugle. Éphésiens chapitre 2. Quelle heure est-il, les amis? Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et pour vos péchés. Donc Saül arrive, c'est un mort sur pied, c'est un mort qui court. Quand vous, Élodie et Apinès, vous êtes à l'école, vous avez vos copains et copines, même si vous aimez bien, dites-vous, s'ils sont sans Jésus, s'ils sont sans la vie éternelle, ils sont morts. Ils sont séparés de Dieu pour l'éternité. Sur la rue, sur les trottoirs, dans les bus, au chantier, à l'école, nous sommes entourés de morts. Mais les morts peuvent entendre la parole de Dieu. Jean chapitre 5, verset 23-26. Le jour est venu où les morts entendront la parole de Dieu et ils vivront par la parole de Dieu, par l'évangile. Quelqu'un peut sortir. Eh bien, le voyant, Samuel, il était pour relever le peuple d'Israël. Il fallait qu'il passe de la mort à la vie. Moïse l'avait dit, choisir, tu as un chemin, à gauche ou à droite, chemin de la vie ou chemin de la mort. Alors, nous, chrétiens, nous qui avons Jésus dans notre cœur, nous avons une mission de porter la lumière pour qu'il voie où il met les pieds. Le prénom Christophe, Jean-Christophe, Christophoros, le phare Phoros, hein, Christophe. Celui qui porte la lumière de Christ. Il la met devant pour qu'il choisisse. Christophe, ça veut dire ça. Alors, Paul parle à des gens qui étaient morts, qui sont devenus, qui ont été sauvés. C'est parce que lui a apporté la parole. Ils sont passés de la mort à la vie. Jean 5, verset 23 à 26. Celui qui écoute ma parole est passé de la mort à la vie et ne passera point en jugement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Nous tous, aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre humanité, accomplissant les volontés humaines et nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous avez le portrait de Saül ? Vous savez le portrait de Saül, si vous lisez tout le livre de Samuel, regardez bien toutes les gaffes qu'il va faire, tout le reste. Puisque ce peuple n'aime pas Dieu, ne l'honore pas, il va leur donner un roi comme ça. pas un roi qui est véritable dans la foi, pas un roi véritable. Ils ont demandé un roi comme dans toutes les nations, il y en avait un. Donc un roi sans Dieu. Quel égarement. Je me rappelle dans un cours de théologie, quand j'avais 25 ans, un professeur a dit, nous avons les hommes politiques que nous méritons. Et c'est bien vrai, comme le peuple d'Israël avait le roi Saül qu'il méritait. Si nous, nous voulons un autre roi, le Christ Jésus, eh bien, vous pourriez lever la main si vous l'aviez comme roi ou pas. Je n'ose pas vous le poser la question. Mais dimanche prochain, je vais bien poser la question. Avez-vous le Christ comme roi de sainteté, de justice dans vos vies? Je vous laisse réfléchir la semaine. C'est lourd de conséquences. Lourd de conséquences. Donc, vous voyez, dans l'éducation, il est extrêmement important. Vous avez vu Éphésiens 2. Vous avez un enfant qui grandit, il est né avec l'intelligence obscurcie. Il a la vanité de ses pensées. Il est ennemi de Dieu par ses pensées. Sans le savoir. Comme Saül. Et Saül voit arriver un ennemi de Dieu. C'est ça que je veux dire. Saül les reconnaît.
Samuel
voit Saül arriver et lui dit... Mais il sait très bien à qui il a affaire. Il ne s'y méprend pas. C'est extrêmement important pour nous aujourd'hui d'avoir le regard clair et de comprendre ce qui se passe autour de nous, en face de nous, ou dans notre dos. Voilà, je pense que l'exemple de Samuel est quand même flagrant. Il va devoir supporter ce peuple et il va devoir... loin de l'huile, parce que Dieu lui dit, ils ont voulu celui-là, donne-leur. Hein. C'est comme nous l'Europe, hein. Après les élections, ils ont voulu ceux-là, ils les ont. On va voir les résultats. En Afrique, je prends le cas de l'Afrique. Je prends quelqu'un qui fait des études d'ingénieur ici, ou d'économiste, ou de docteur. Quand il retourne en Afrique, va-t-il être reconnu pour ses qualifications et ses compétences? Va-t-on lui donner la place dans la société pour qu'il fasse du bien à la société ou pas? C'est pas son diplôme, sa compétence qui va compter. C'est l'esprit tribal qui va compter. Il est avec nous ou il est contre nous? Il est des nôtres ou il n'est pas des nôtres? Ce n'est pas la compétence et la valeur de la personne. C'est l'obscurité, la vanité des pensées qui va. L'esprit de Satan règne sur les nations et ferme les choses ici. Mais en Afrique, c'est clair, quelqu'un qui a une valeur pourrait faire son boulot convenablement. À la limite, il sera éliminé. La même chose dans beaucoup de pays musulmans. Il y a quelque chose complètement de déréglé dans ce monde. Complètement. Pourquoi tellement de jeunes gens qui ont des diplômes, qui ont des compétences, ne retournent pas en Afrique? Parce qu'ils savent très bien que certains y sont retournés, ils n'ont jamais pu accomplir une vie professionnelle sérieuse. Ils ont toujours eu des bâtons dans les roues. Ils n'ont pas pu fonder une famille et faire du bien pour leur société. C'est extrêmement rare. Très, très rare. Donc, pour finir, demi-tour, on reste en Europe. Quand vous éduquez des enfants ici, et que vous les poussez à avoir des diplômes, des compétences, hein? Par exemple, notre cher Happiness va faire des études, chinois, anglais, espagnol, français. Elle va avoir des compétences. Elle est chrétienne, elle tient le coup à l'institut universitaire, parce que c'est... Hein? Puis ils vont être séparés, ils ne vont plus être ensemble, ça va être dur, il faut prier les unes pour les autres, il faut s'épauler. Et pratiquement, ce qui se passe, quand elle a son diplôme, où elle tombe ? Va-t-elle pouvoir faire selon ses compétences et rendre service honnêtement, de manière droite ou pas ? Ou va-t-elle tremper dans des affaires tordues, mais tordues jusqu'au-dessus de la tête, et pour avoir sa paye, elle va y rester. Elle a un choix. Elle a un choix. Si elle ne trouve pas, et qu'elle doit chercher une autre voie pour faire un boulot, où elle peut être chrétienne et le faire. Si elle s'en remet à Dieu, et si toute l'Église prie, elle trouvera. Mais les obstacles sont nombreux pour les enfants de Dieu. Les obstacles sont nombreux. C'est ça que je veux dire. Dans la foi, nos enfants doivent être préparés à la course d'obstacles. Tac, tac, tac. Vous connaissez ça quand vous voyez les sports, là, hein? Ils sautent les haies, course d'obstacles. Et il faut sauter jusqu'à la dernière haie. Hein? On n'en saute pas trop, mais on se casse la figure. La même chose pour le cheval. Le jeune chrétien a une vie plus difficile que les autres. Mais s'il est attaché à son Seigneur, ben moi je le dis, il est comme Samuel qui tient le coup. Je crois que Dieu est grand et il peut donner des bons témoins dans notre monde partout. Partout, là où vous travaillez, vous pouvez être des bons témoins pour le Seigneur et réussir les sauts d'obstacles. Partout, Samuel l'a fait. Ça, c'est le message d'espérance que je vous dis. Parce qu'il y a une seule chose qu'il faut éviter. Éviter absolument. C'est de résister à la parole de Dieu. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ne jouez pas. Je termine. Et n'enseignez pas vos enfants à résister à la parole de Dieu. Parce que Samuel ne la jette pas par terre. Mais il pourrait dire, je fais ce qui me plaît quand même. Je résiste. Je choisis. Ça, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Alors, 1 Samuel 15, verset 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. 1 Samuel 15, 22, je termine par là. C'est-à-dire que quand on éduque un enfant, il va avoir des résistances à la parole de Dieu. Autour, enfant, il chante des chants, il aime bien, tom-tom, tout le tom-tom, faire des sketchs et tout ça. Oui, mais quand il grandit, 15-16 ans, vas-y, nénesse, là, je fais ce qui me plaît. Derrière le dos de mes parents, moi, chrétien, oui, je viens en culte, mais sur Internet, je regarde n'importe quoi, hein, avec mon téléphone sous l'oreiller, ou je sais pas, je raconte, j'écoute toutes les salades qu'on me raconte, et je rigole avec. Je me compromets. Et quand on commence à se compromettre, où ça s'arrête ? On ne se rend pas compte qu'il y a un filet qui est en train de se mettre à l'entour des pieds, pas le filet du Seigneur pour attraper les pécheurs, le filet du diable. Et comment on peut s'en ressortir après ? Donc l'enfant, à un moment donné, à 15-16 ans, 14 ans, il doit avoir le sens de la responsabilité, il doit avoir analysé. Et les parents doivent avoir fait une évaluation avec lui avant. Est-ce que tu as l'habitude de résister comme ça souvent à la parole de Dieu? Tu as l'habitude de juger Dieu et de... Tu as l'habitude de rejeter les choses qu'il te dit? Attends, allez, on va demander pardon, je vais prier avec toi. Attention, tu vas te perdre. Si malgré tout il le fait, là, c'est certain, peut-être que 40 ans après, il est déglingué à fond, il est en psychiatrie, il est torché parce qu'il fume, il boit, il mange n'importe comment, il se traîne comme une limace dans les magasins, dans la maison communale, et puis il se rappelle de ce que les parents lui ont dit. Moi j'ai eu des gens comme ça ici, hein. On me téléphone d'Alsace, un marchand très riche, un marchand de vin qui vient avec son camion, son chauffeur et sa femme dans la cabine devant. Il distribue du vin dans tous les restaurants. Je voudrais bien vous voir parce que je n'arrive plus à marcher. Je n'arrive plus à marcher. Je voudrais bien que vous priez pour moi. Je ne connaissais pas monsieur. Oui, là où vous êtes assis. Mais pourquoi vous me demandez ça, monsieur? Je ne vous connais pas. Ben si, il y a un de mes amis qui est berger du côté d'Épinal. Il est venu ici, il était paralysé. Et il est venu chez vous, vous avez pris avec lui, et maintenant il remarche, il retravaille. Alors les amis, moi je suis un peu des fois dans le cas de Samuel. Hein. Il faut que je voie arriver. Hein. Je vois y arriver. Hein. C'est pas tout de me raconter des blagues. Hein. Et de tomber dedans, ça m'est arrivé. Alors, pratiquement ce qui se passe. Oui, mais ce que le bonhomme alsacien là, grand, baraqué, énorme, hein, profite bien de la vie et tout, le bon vin, la choucroute et tout le reste. Alors pratiquement, ben oui, on voit déjà. Il écoute toutes ses faiblesses, donc il ne maîtrise plus rien. Alors pratiquement, ce qu'il y a, c'est que je lui dis, écoutez au téléphone, le monsieur d'Épinal, je cherche dans mon disque dur, je retrouve. Oui, mais avec lui, j'ai lu les paroles de Dieu. J'ai prié, j'ai parlé de Jésus-Christ avant. J'ai juste dit ça. Le voilà qui débarque, il rentre ici, j'avais mis les chaises en rond là-bas, où vous êtes, et j'avais prié, j'avais lu ma Bible et tout. Oula. Alors je lui raconte que M. d'Épinal, le Seigneur m'avait guidé vers certains textes, et je les avais lus, et que c'est la parole de Dieu qui l'avait touché. Et je dis, vous devez demander pardon, parce que ces choses-là ne sont pas réglées dans votre vie. Et puis après, on priera pour votre maladie. Et j'ai dit, de toute façon, moi, la guérison de votre maladie, c'est une affaire entre Dieu et vous. J'ai toujours demandé, si quelqu'un doit guérir, c'est 15 jours après. J'ai pas besoin de médailles et de fleurs. Et effectivement, sans doute, il était guéri 15 jours après, et voilà que il parle. Il parle avec un Alsacien, que moi je ne connais pas, et l'Alsacien arrive ici. J'avais trois textes dans l'Évangile, en méditant, trois textes avec des paroles de Jésus. Et quand ils sont assis, j'ai pris un petit peu, j'ai dit bonjour, on s'est dit bonjour. La femme était rigide et froide, dure comme la pierre, elle était là. Elle n'est pas de bon cœur, voir le petit pasteur à Gomery. Et alors pratiquement, ce qui se passe, on s'assied, l'ouvrier était avec, c'est lui qui conduisait le camion, parce que le bonhomme n'était plus vraiment apte. Je lis les trois textes, et tout d'un coup, le monsieur, 75 ans, une armoire à glace, dit, avec le sourire, « Mais c'est les textes que j'aimais quand j'étais petit, c'est les textes que je préférais, j'aimais lire. » Retenez bien ça pour vous, hein, pour n'importe qui. Alors, je lui réponds aussi sec. Oui, vous les aimez bien, mais vous les avez mis 60 ans au placard. Maintenant, vous êtes dans le caca, vous venez me voir. Et regardez bien que le Seigneur vous resserre les trois textes que vous aimez bien, sans que moi je le sache. C'est le Seigneur qui m'a poussé à les choisir. Si vous aviez à cœur ces trois textes-là quand vous étiez petit, pourquoi vous n'avez pas gardé dans votre cœur toute votre vie? Pourquoi vous n'avez pas vécu? Vous me regardez? Je n'ai pourtant pas des grandes dents, je n'ai jamais mangé personne. Mais ce qu'il y a, je dis, monsieur, c'est une grande grâce pour vous que de venir quasiment 60 à 65 ans plus tard pour réentendre la parole de Dieu que vous avez laissé jeter par terre. Vous avez vu avec Samuel, lui il ne l'a pas laissé par terre. Vous l'avez laissé par terre. Est-ce que vous voulez qu'on demande pardon à Dieu pour ça? Il était confus, hein. Est-ce que vous acceptez de relire la parole de Dieu tous les jours? Hein, vous croyez que c'est du roman? Peut-être, certains. Mais je vous garantis que se faire remettre le compteur à l'heure comme ça, hein, alors qu'on croyait être, on venait rien pour la guérison des gens, vous imaginez? L'opportunisme, comme Saül, hein, qui cherchait les ânes. Et pratiquement, ce qui se passe, il a accepté et compris. Il a prié sincèrement, je l'ai vu. Je lui ai dit, monsieur, cette fois-ci, ne jouez plus avec Dieu. Ne jouez plus. Il est patient avec vous. Il fait 65 ans que vous lui crachez la figure, vous lui tournez le dos. Il vous aime. Il vous a poussé ici et il vous a mis les trois textes. C'est pas moi. Moi, je suis que le facteur, j'emmène le courrier dans la boîte aux lettres, c'est tout. Alors, vous êtes bien d'accord? Oui. Oui. Alors, on peut prier maintenant pour vos jambes. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, alors. On a prié pour les jambes. Ils sont repartis. Et un peu plus tard, les jambes se portaient bien. Je vous ai toujours dit que l'âme qui est en ordre avec Dieu et qui vraiment vit de la parole, ça a des retombées sur la santé. N'oubliez jamais, jamais. Des retombées très importantes. Alors, c'est pour vous dire, ce que Samuel a dit là nous concerne tous. 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les cultes à Gomrie et les réunions bibliques en semaine ou dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc les sacrifices, oui, on offrait des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, donc les médiums et tout ça, ceux qui parlent avec les morts et tout le reste, qui prédisent l'avenir. Et la résistance à sa parole ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes, c'est les jeux de hasard, les jeux de dés pour trouver l'avenir. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi, toi, comme roi. Voilà, Saül, éjecté. Saül est éjecté. Alors, Saül dit à Samuel, regardez-le. Ça, c'est les gens qui pleurent sur leur péché avec des larmes de crocodile. Combien j'ai vu ça? Mais c'est pas le vrai repentir, hein? C'est pas la vraie conversion, hein? Je m'excuse de parler comme ça, mais je pense que l'urgence est là. Ne jouons pas avec Dieu, ça a assez duré. Alors, j'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple. Vive la démocratie. Je dis au peuple ce qu'il aime bien d'entendre qu'on lui dise. Je le frotte dans le sens du poil, comme ça je reste roi. Je reste président, je reste ministre. Je satisfais aux convoitises et aux caprices du peuple. Mais ce que Dieu demande, basta, pas question. Puisque le peuple n'en veut pas, eh bien je ne parlerai pas de Dieu au peuple. Et je ne le mettrai pas à première place. Il a tellement peur de rentrer chez lui, hein, Saül. Il dit ceci, au verset 26. Samuel dit à Saül, je ne retournerai... verset 25. Je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Il n'est pas capable de prier Dieu tout seul. Il faut qu'il descende. Hein? Son Samuel... Les amis, si vous ne savez pas prier sans un ancien d'église, sans le pasteur, sans les frères et sœurs, posez-vous des questions. Hein? Posez-vous des questions. Est-ce que ma relation est véritable avec mon Dieu, mon Seigneur? Est-ce qu'elle est véritable? Bien sûr, on vient au culte, on vient en réunion biblique, mais avec un cœur véritable. Dans la vérité. Mais où je vis dans la vérité? C'est dans le silence de mon cœur, dans ma chambre, dans le secret, là. Quand je suis au travail, en auto, au magasin, c'est là le secret de mon cœur. Où est mon trésor? Mais regardez, il est tellement désarçonné qu'il ne sait plus où il en est. Mais il récolte ce qu'il a semé. La confusion. Verset 26, Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Shrak. Alors ça va pire, c'est encore pire. Regardez bien au verset 30. Saül dit encore, j'ai péché. Ah oui, il reconnaît le péché. J'ai eu ça une fois avec un banquier. Un banquier qui avait... sa femme, il se plaignait que sa femme courait avec le couteau après lui, et qu'une fois elle l'avait loupé, elle avait rentré le couteau, vous voyez, les éviers en inox, elle avait troué les éviers en inox avec le couteau. Je dis, elle était très en colère. Mais je dis, tu as eu combien de maîtresses? Tu l'as pris pour quoi, toi, ta femme? Oui, je sais bien, je suis pêcheur. Il était bien, il était biblique. Monsieur Banquier. Oui, parce que le pêcheur a des réponses, hein. J'ai pêché, regardez. Oui, je sais bien que je suis pêcheur. Devant tout le monde, j'ai dit, avec le doigt, et coupable. Arrête la comédie. Et coupable. C'était trop fort pour moi, c'était trop fort. C'est pas méchamment que je l'ai fait, mais je lui ai dit. Si elle dit encore, j'ai pêché. Quand quelqu'un vient vous dire que j'ai pêché, oui, je voudrais bien que tu pries avec moi, attention, hein. Le serpent est capable, le diable est capable de faire ça. Hein. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Honore-moi. Allez. Il faut que les autres ne voient pas où j'en suis. Il faut que les autres croient toujours que je sois le roi. Je suis toujours un homme bien. Il me faut toujours la mascarade. Allez, tu vas m'y aider. Que font les grandes religions? Que font les grandes religions des hommes politiques? Vous savez Notre-Dame de Paris qui a brûlé 2 ans après la Révolution. Il y a eu une consécration de la déesse raison, dans Notre-Dame de Paris avec les évêques, non apostoliques, et tout le monde. Pour moi, elle pouvait brûler la cathédrale. Le nombre de mensonges qui ont passé là-dedans, c'est assez duré. Et je pense qu'il n'y a qu'une maison qui nous intéresse. La maison de Dieu, c'est Christ, le Seigneur Jésus. Dans sa sainteté, dans sa bonté, dans sa... c'est lui, le temple de Dieu venu sur terre. Tout le reste, c'est des tas de pierres où on pratique souvent des mensonges. Et regardez, Saül propose de la corruption à cet homme-là. Tu seras toujours à ma droite. Tu seras toujours à ma droite. Il ne faut pas qu'il le sache que Dieu m'a rejeté. Il faut quand même que je reste à ma place, avec tous mes avantages, mes honneurs. Si, chers amis, vous avez des enfants, ou que vous en aurez, vous devez être d'une clarté, d'une honnêteté, que vous puissiez parler à vos enfants avec la vérité. Avec la vérité. Ne leur donnez pas des demi-vérités, du poison, pour qu'ils deviennent des Saül. Les enfants ne sont pas nés pour aller en enfer. Les enfants ne sont pas nés pour vivre en péché et aller en enfer. Les enfants ne sont pas nés pour être serviteurs du diable et du péché. Dieu les attend. Dieu a mieux pour eux. Dieu a mieux pour eux, comme pour Samuel. Si vous en êtes convaincus, vous serez des serviteurs de Dieu tout en étant des parents. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont serviteurs de Dieu. Les premiers serviteurs de Dieu, ce sont les parents et les grands-parents. Voilà, que Dieu nous bénisse. Regardez ces fleurs, elles sont magnifiques. Parce que Dieu considère que nous sommes souvent des enfants, il veut nous parler simplement. Et en vérité. Si quelqu'un veut prier, ce serait très bien. Au nom de Jésus, Amen.